Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
7h-9h30 avec Jérôme Chapuis.
Et avant Laurent Gérard, voici la revue de presse de Marie Guerrier. Bonjour Marie.
Bonjour.
Dans Ouest-France, ce matin, un soldat de 30 ans se raconte.
Je suis atteint d'un syndrome de stress post-traumatique. Je suis en rémission. Un médecin de l'hôpital militaire de Brest m'a déclaré à nouveau apte au métier des armes. Une belle victoire après 2 ans d'errement, de souffrance, de doute. Après cette introduction, le soldat qui témoigne anonymement détaille son parcours. Il s'engage en 2011 alors qu'il était déjà enseignant. En 2014, il est envoyé en Centrafrique. C'est l'opération Sangaris pour mettre fin aux violences interreligieuses. C'est là que tout bascule. Je passe 5 mois en forêt équatoriale. Nous dormons peu et en permanence avec nos armes. Nous sommes aux premières loges des massacres, des corps mutilés, des charniers, des cadavres à compter dans les fleuves. C'est oppressant. Je n'ai pas l'impression d'être choqué au final. Cela devient la normalité. Bien plus tard, j'apprendrai qu'une telle charge se partage. Un jour, je dois rentrer en France. On m'enlève mes armes. Je me sens nue. Je retourne à la maison après être passée brièvement par un sas de décompression 2 jours dans un hôtel à Chypre. Sans parler, sans me libérer. Le récit du soldat se poursuit avec le calvaire qu'il fait vivre à sa femme et ses enfants, accès de colère, alcoolisme, des tics. Il frotte l'une de ses jambes à la recherche d'une hypothétique arme pour se protéger. Il refuse de parler de ce qu'il a vu pendant sa mission. Il s'enfonce dans le déni. Ses chefs font finalement intervenir la cellule psychiatrique de l'hôpital militaire de Brest. C'est la longue rémission jusqu'au retour aujourd'hui au service actif. Ce soldat ne veut pas qu'on le dise blessé de guerre. Il veut réserver cela à ceux qui ont perdu un bras ou une jambe. Il parle, lui, de maladie, un syndrome de stress post-traumatique. On peut en revenir, en guérir, dit-il. C'est son message à tous ses frères d'armes qui cachent encore qu'ils sont en souffrance, et c'est à lire dans Ouest-France.
L'homme du jour dans vos journaux, c'est Édouard Philippe.
Oui, au lendemain du discours du président Macron, c'est au tour du Premier ministre de prendre la parole cet après-midi devant les députés. Le dessin de Chaunu dans l'Union montre un Emmanuel Macron qui sort en courant de la salle du Congrès, tournant le dos aux parlementaires et qui lance à la cantonade « Pour les questions, voyez avec Édouard ». C'est ce qui ressort de l'ensemble des éditos ce matin dans la presse. Au président, les mots, les concepts, au Premier ministre, les actes et les gestes, la tête et les tripes, écrit Cécile Cornudet dans Les Échos. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tripes d'Édouard Philippe? On ne le connaît pas très bien encore. Le Figaro raconte qu'il est entouré d'un groupe d'amis, le groupe Bellota, du nom d'un restaurant proche de l'Assemblée nationale où ils avaient pris l'habitude de se voir. Tout commence au lendemain des élections législatives de 2012, quand le député UMP de la Marne, Benoît Apparu, organise un premier dîner entre élus d'une même génération qui partagent le plaisir de la table. Il y a là Franck Riester, Bruno Le Maire, Thierry Solaire et l'autre énarque de la bande, Édouard Philippe. Le groupe s'est ensuite élargi. Gilles Boyer, Gérald Darmanin. Les uns sont aujourd'hui au gouvernement, d'autres devenus députés républicains constructifs, Macron compatibles. Dans ces fameux dîners de l'époque, rien que d'informels, disent-ils, ce sont des moments de détente, on aime se bidonner et forcément, comme nous sommes des politiques, on parle politique. Ils sont tous impliqués d'ailleurs de près dans la primaire de la droite, auprès de candidats différents, mais qu'importe. L'un des membres de la bande confie « Macron a vite repéré notre petit groupe quand il était ministre de l'économie. On se voyait à la buvette de l'Assemblée. Depuis qu'Édouard Philippe est devenu Premier ministre, le groupe Bellota n'est jamais très loin. Pour l'aider, par exemple, à préparer ses 20 heures à la télé, Édouard Philippe décrit ce groupe, un groupe d'amis, une bulle d'oxygène entre amis qui partagent une passion et qui sont en confiance. »
À la une de l'Est éclair ce matin, la mauvaise surprise des élèves au brevet.
Précisément des élèves de 3e du collège Max Hutin à Bouilly, près de Troyes. Leur prof d'histoire, persuadé que le sujet sur la colonisation ne sortirait pas à l'épreuve du brevet, n'avait pas pris le temps de l'enseigner. Pas de chance pour les élèves, ils se sont trouvés fort dépourvus quand le sujet est tombé. Inquiets, ils sont allés voir leur prof à l'issue de l'épreuve. On leur a répondu que ce n'était que 14 points sur 50. Les parents sont scandalisés par cette réponse. Quant au principal, il a rétorqué que ce n'était pas une problématique spécifique à son établissement, que ce soit pour le brevet ou pour le bac. Tous les enseignants, dit-il, ne voient pas forcément la totalité du programme. Pas de quoi calmer les parents. Le rectorat affirme de son côté que les programmes scolaires sont censés être finalisés en classe avant l'examen et une commission académique se réunira lundi prochain pour examiner les situations particulières de ces élèves.
C'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Et c'est toute l'histoire de cette photo que vous avez sûrement vue, la chute de plusieurs favoris du Tour de France,
oui,
dans l'étape de dimanche sur une route détrempée. On y voit très nettement les visages crispés, les coureurs figés dans leurs mouvements, jambes ou bras en l'air. eh bien ce cliché a fait basculer la vie de Chris, un photographe britannique de 42 ans, c'est à lire ce matin dans Le Parisien. Chris est reporter indépendant, c'est son premier tour de France. Il est tout seul, roule dans un petit van blanc, dort dedans, entre son matériel photo et son vélo. Dimanche, il s'est installé dans un virage, après une descente, la configuration lui a paru bonne. Il s'est mis à pleuvoir. J'étais tout seul, dit-il. Le peloton a alors pointé son nez et a fait sa renommée glissade immortalisée. En tant qu'indépendant, le photographe est rémunéré au cliché. Récemment, il a lâché son studio à Newcastle parce que les affaires ne marchaient pas. Dimanche, pour transmettre sa photo, il est allé dans un McDo pour avoir du Wi-Fi. Il a mangé un morceau et quand il est revenu à son véhicule, il avait déjà reçu des dizaines de messages. Désormais, sur Internet, sa photo apparaît immédiatement dès que l'on tape le mot « chute ». Pour Chris, c'est plutôt un tremplin.
Marie Guerrier pour la revue de presse. À demain.